La Motte Langon, la flatterie du diable. Dans la ville de Toulouse, en 1485, Madame de C. jouissait de la considération publique qu'elle devait à sa naissance, à sa fortune et à sa beauté. Plus elle avançait en âge et plus elle paraissait embellir. C'était un prodige que de la voir, et ça ne pouvait comprendre comment elle trompait le temps. Mais reculons. Le jour où elle allait atteindre sa 18e année, elle se regarda dans son miroir et trouva sa figure tellement insignifiante qu'elle se prit à pleurer en disant « Oh, je crois que si le diable me rendait belle, je me donnerais à lui. » Le lendemain, comme elle allait à la messe, suivie de sa femme de chambre et de laquais, une pauvre femme l'aborde en lui demandant l'aumône. Et comme Mademoiselle de P. ouvrait son aumônière pour lui donner un liard, elle en vit tomber un papier que sa curiosité l'engagea à retenir. Elle entendit peu la messe, tant elle était préoccupée de ce qu'elle allait lire. De retour à l'hôtel de son père, elle se renferma dans sa chambre et elle trouva ses mots écrits en lettres rouges sur un parchemin de peau humaine. « Si tu as autant de courage que tu peux posséder de beauté, tu laisseras ouverte la fenêtre gauche de ta chambre de minuit à 1 heure. Sois sans crainte, je n'ai aucun pouvoir de te faire du mal. » Satan, surprise d'une telle missive, et plus encore de la signature, elle regarda la lettre comme une plaisanterie et en eut vraiment du dépit, à tel point qu'elle était avide d'échanger sa physionomie commune et sans expression pour une toute gracieuse et animée. Cette nuit donc, elle ne se coucha pas, et comme minuit sonnait à l'horloge de la paroisse de Saint-Étienne, elle ouvrit la fenêtre indiquée et se mit à regarder le ciel. Il était sombre et de fréquents éclairs l'illuminaient. Le tonnerre grondait dans le lointain, et le vent soufflait avec violence. Il convient de dire que, quoique la chambre ne fût qu'au second étage, l'élévation en était excessive et qu'il était impossible qu'on pût y arriver du bas de la maison. Quelques minutes après, et comme Mademoiselle de P. continuait à regarder, elle aperçut, au milieu des nuages, un pont, un point bordé d'un rayon de couleur de feu qui descendait rapidement et qui paraissait se diriger vers elle. Étonnée, elle s'inclina par un mouvement involontaire, et tout aussitôt un homme d'une taille colossale et vêtu de rouge sauta de la fenêtre dans la chambre en lui disant « Me voici !»« Mais qui êtes-vous ? » demanda Mademoiselle de P. sans être trop curieuse. « Mais celui qui t'a écrit !» lui fut-il répondu. « Mais parlez-moi avec plus de respect, reprit-elle, je suis fille de qualité. » Satan, car c'était lui-même, confondu de tant d'orgueil, lui répliqua, « Vous êtes dit, en effet, d'être une reine et celle de tous les biens. Je venais ici pour vous commander, mais vous me subjuguez. Allez, donnez-moi des ordres, votre esclave les exécutera. » Un propos pareil fit disparaître le mouvement de crainte qui s'était élevé dans l'âme de la jeune Trouzaine. Elle examina attentivement celui qui se présentait à elle et lui dit « Je vous croyais plus laid que vous n'êtes. Vous n'êtes pas beau, pourtant, mais en vous, vous avez peint, moi, comme un monstre. Vos prêtres qui me haïssent aussi et ne me connaissent pas, reprit Satan, me calomnient. Oh, je suis malheureux plus que méchant, je vous assure. Et en preuve, c'est que je vous servirai à votre fantaisie, sans vouloir que vous donniez à moi. Pour débuter, permettez-moi d'ajouter à vos charmes. Vous croyez laide, bien, cela n'est plus vrai que ma prétendue scélératesse. Néanmoins, on peut vous embellir, j'en prendrai le soin et vous serez adorable. Prenez ce sifflet, portez-le un peu à votre cou, et quand vous aurez besoin de moi, soufflez dedans et je paraîtrai aussitôt. » En même temps, il lui remit une chaîne d'or admirablement travaillée, à laquelle pendait le petit sifflet qu'il était facile de cacher dans les plis de sa robe. Puis je lui donna pareillement deux points de pommade, l'un pour soi dans le visage et l'autre qu'elle remploierait, et dont il lui indiquerait l'usage si la fantaisie lui prenait d'aller au sabbat. Puis, l'ayant salué avec toutes sortes de vénérations, il remonta sur la fenêtre et disparut. Mademoiselle de P, loin d'avoir terreur de ce qui venait de se passer, conserva précieusement les cadeaux du diable et en fit un fréquent usage. Sa beauté, un an après, frappa tous les yeux. Il n'en était pas de plus régulière et de plus accomplie. Des parties se présentaient en foule. On mit jusqu'à l'enchère cette magnifique personne. Le très riche monsieur de C obtint la préférence sur ses rivaux et il se crut heureux. Le mariage fut prospère. Plusieurs enfants en acquirent, dont la postérité subsiste aujourd'hui. Tout réussissait dans cette famille. Un cas embarrassant se présentait-il, madame de C avait recours à son sifflet. Elle appelait le diable qui venait exactement et qui lui donnait la solution de tout ce qu'elle demandait. Elle, en revanche, la nuit de chaque premier samedi du mois, ne manquait pas de faire une visite à son bien-aimé, comme elle l'appelait. Et cette visite avait lieu au sabbat. 30 ans peut-être s'écoulèrent de cette façon-là. Madame de C s'endurcissait dans son crime. Lorsqu'une nuit, comme elle revenait du sabbat, qui se tenait cette fois-là sur la montagne d'Alaric, proche de Carcassonne, à l'instant où, à cheval sur son manche à balai, elle passait au-dessus du couvent des Cordeliers de la Grande Observance, la cloche, qui était bénite, vint à sonner matine. À cet aspect sacré, la puissance diabolique qui soutenait en l'air Madame de C cessa tout à coup, et laissa tomber cette malheureuse de plus de 200 pieds de hauteur, peut-être, sur un gros arbre du jardin des révérends pères. Ce qui amortit la violence de la chute, elle n'en arriva pas moins à terre, toute brisée. Au cri plaintif qu'elle poussa, on accourut. Elle était là, toute nue, les moines en eurent horreur, et la recouvrit d'une robe sale de religieux, et au lieu de la secourir, on se mit à l'exorciser. Elle, en proie à des douleurs intolérables et au lieu de s'amender, ne répondit que par d'affreux blasphèmes. Et dans ce moment, on vit sur chaque branche de l'arbre une multitude innombrable de démons, tous armés de crocs et prêts à saisir au passage l'âme qui allait s'échapper de sa misérable enveloppe. Cela ne tarda pas. Madame de C mourut en poussant un horrible hurlement. Et tous les moines affirmèrent qu'ils avaient vu la gent infernale se rejeter mutuellement entre elles cette âme, comme ils l'avaient fait d'un ballon. On trouva dans les papiers de Madame de C les détails que nous avons donnés de sa première entrevue avec Satan. Cette histoire, qui semble fausse de tout point, selon les règles de la raison, a toujours eu à Toulouse une réputation d'exactitude et de réalité. Les annales de cette ville ont conservé ce fait dans leurs chroniques. Il y est consigné à l'année où il a eu lieu. Je n'ai pas voulu, par égard pour une famille qui a eu des hommes célèbres dans la magistrature, l'Église et les armes, et à laquelle j'ai l'honneur d'être allié, je n'ai pas voulu, dis-je, livrer au public le nom de femme de la dame. Mais, sur les rives de la Garonne, à la lecture de ce récit, le nom de C sera dans toutes les bouches. L'analyse Germain Lafaille n'a pas eu ma discrétion dans ces deux volumes in-folio qui contiennent les annales de cette ville célèbre, depuis son origine jusqu'à la mort de Henri IV.